Des champignons qui font pleuvoir.
Grand-père, tu sais ce qu'est un geai ?
Le geai, c'est ce bel oiseau, aux plumes bleues à la saison des amours. Mais cruel comme pas deux, puisqu'il détruit la progéniture d'autres oiseaux pour pondre son œuf dans leur nid. En fait, ce sont de drôles de coucous ces geais.
Mais grand-père, je ne te parle pas de geai, mais de geai, la lettre geai.
Geai comme grand-père, par exemple.
Si tu veux, mais dans l'article, il parle de G comme une mesure en physique.
Ah, alors tu veux parler de la loi de gravitation, la deuxième loi de Newton. Newton était un savant qui vivait...
Oui, mais là, il parle de vitesse et de champignons et de millions de G.
Ah, c'est vrai que lorsque ton père appuie sur le champignon, il va bien trop vite. Et je le lui dis à chaque fois, mais il ne m'écoute pas.
Et ils disent aussi que les champignons font pleuvoir.
Alors là, Lilou, tu m'embouches un coin. Les champignons font pleuvoir ? Mais voyons, c'est comme si tu me disais que, tiens, les parapluies font pleuvoir. Ce n'est pas parce que l'on ouvre un parapluie qu'il pleut, mais plutôt le contraire.
Tiens, regarde ici. Il y a bien marqué des champignons qui font pleuvoir.
Voyons cela. Des champignons qui font pleuvoir. Champignons, pluie... Non mais c'est complètement fou. Champignons, ils font pleuvoir, nuages... Ah non, c'est incroyable!
Explique-moi!
Bon, je t'explique. Il y a longtemps, une centaine d'années...
Ah non, tu vas encore me parler de ton histoire de Newton et d'autrefois.
Newton, Lilou, Newton et non pas Mouton. C'était un immense savant. Et puis, tu sais, beaucoup ont découvert des choses qui ne furent constatées par la science que bien plus tard. Regarde Einstein. On ne commence qu'aujourd'hui à prouver certaines de ses théories. Il y a comme ça des génies dont on se rappelle, et des génies que l'on oublie et que l'on redécouvrira que bien plus tard. Tiens, par exemple, Buller. On l'a appelé le Einstein de la biologie. C'est de lui dont je veux te parler, car dans cet article, c'est de lui dont on parle.
Bon, d'accord. Alors, qui était Buller ?
Eh bien, Buller était un scientifique il y a une centaine d'années. C'était un génie de la biologie. Il est resté dans la postérité pour, entre autres... ce que l'on a appelé la bulle de Buller. En soi, rien que cette dénomination, c'était du génie de la communication, la bulle de Buller.
Ah oui, c'est comme l'île de Lilou, ou la pompe de Pompadour, le paillasson de paillasson, ou les macarons de Macron.
Et Lilou, d'abord ton île, tu ne l'as pas encore trouvée, et puis la Pompadour n'a pas inventé de pompe, et si Paillasson était un célèbre chocolatier du temps de Bernadette Soubirous, Macron n'est pas connu pour avoir inventé les macarons, mais pour être président de la République. Un vrai petit miracle. Je veux dire, cette histoire de champignons qui font pleuvoir. Alors, veux-tu que je t'explique ?
Eh bien, si tu veux.
Alors, revenons donc à nos champignons. Ces champignons à chapeau que tu vois dans les champs et les forêts. Et ce sont en réalité les organes reproducteurs d'un immense organisme souterrain qui relie les arbres entre eux comme une toile d'araignée. C'est pour cela que l'on a employé le terme, pour désigner ce réseau d'internet de la forêt, le WWW, World Wild Web, et non plus le World Wide Web.
Ah, je vois, pas mal. Remplacer « wide » qui veut dire « large » par « wild » qui veut dire « sauvage », donc la toile sauvage mondiale, cool! Mais alors, comment les arbres communiquent-ils à travers cette toile sous terre?
Ça, Lilou, je t'en parlerai une autre fois. Ici, on parle du chapeau du champignon. On parlera plus tard de la toile. Tu m'écoutes?
Ok, allons-y.
Je te disais qu'en fait, ce qu'on appelle les champignons ne sont que la protubérance sur le sol d'un immense réseau. Ce champignon a un chapeau sous lequel se développent les spores. Les spores sont pour le champignon ce que sont les graines pour les plantes. Elles permettent de reproduire l'espèce, des petits champignons en devenir. Le problème est que ces spores sont attachées sous le champignon et pour produire de nouveaux petits champignons, elles doivent s'en échapper. Mais comment ? C'est ce qu'a imaginé Buller il y a 100 ans. Buller était non seulement un grand savant, mais aussi un poète. Et par exemple, il a écrit un poème sur la relativité d'Einstein. Et donc, à l'aide et de ses connaissances scientifiques et de son intuition de poète, il a décrit ce phénomène qui vient d'être corroboré par cet article scientifique. En réalité, donc, pour pouvoir se détacher du chapeau du champignon auquel elle est retenue par une espèce de tout petit pédoncule, un pied, la spore utilise l'énergie d'une goutte d'eau pour pouvoir s'évader.
Mais comment une goutte d'eau peut avoir de l'énergie ?
Eh oui, pas exactement la goutte d'eau, mais voilà comment ça se passe. La spore a la faculté d'épouser en quelque sorte une goutte d'eau. C'est-à-dire que lorsqu'une goutte d'eau tombe sur la spore a un format tel qu'elle fusionne avec la goutte d'eau, comme si la goutte et elle n'étaient plus qu'un. Donc, lorsque la goutte d'eau se stabilise sur la spore, elle exerce une force de compression sur le pied auquel est rattachée la spore, et sous la pression, le pied compressé se détend et propulse la spore qui s'en détache et est éjectée au loin.
Et un peu comme au basket pour faire un panier, tu me lances le ballon, je réceptionne le ballon dans mes bras en ne faisant plus qu'un avec lui, je prends mon élan et hop, en me projetant sur mes jambes, je saute en l'air et je marque le panier.
Bravo Lilou, c'est exactement ce qui se passe pour la spore du champignon. Mais sais-tu justement combien développe de G cette action du champignon ? Pour te donner une idée, une Formule 1 en accélération produit environ 5G, un avion de chasse jusqu'à 9 à 12.
Eh bien, je sais pas, un demi-G ?
Eh bien, tu es bien loin du compte. Le champignon développe des millions de G, un peu comme si d'un bond, il voulait rejoindre la Lune. Mais comme cela ne se passe qu'en une fraction infime de seconde, la spore est éjectée à quelques centimètres du chapeau, suffisamment pour que le vent l'emporte dans son étrange voyage, ici ou plus loin ou vraiment ailleurs. C'est ainsi que, sans doute, les champignons ont colonisé toute la planète. Mais ce n'est pas tout. Les savants ont étudié la capacité des spores de champignons à coaguler les gouttes d'eau en grand nombre exactement comme se forme un nuage. En effet, ce sont des millions de spores qui sont projetées dans l'atmosphère de l'ordre de 50 millions de tonnes chaque année. C'est ainsi qu'ils ont accumulé dans des chambres d'expérimentation des millions de spores de champignons et ont constaté la condensation de l'humidité en forme de nuages opérés par les spores.
Mais alors, si les nuages sont formés par les spores, ça veut bien dire que les champignons font pleuvoir ?
Eh bien oui, et c'est complètement incroyable de penser que les champignons, qui ont besoin de pluie pour sortir du sol pour actionner leur système reproducteur, ont la capacité de faire pleuvoir et ainsi créer leur propre cycle de vie.
Mais donc, si on ne protège pas nos forêts qui abritent l'essentiel des champignons, on influe directement sur le climat ?
Eh oui, tout juste. La nature est un milieu bien mystérieux, qui recèle des trésors essentiels pour la survie de l'humanité, mais nous ne sommes qu'au seuil d'en comprendre les mécanismes. Sais-tu, par exemple, que c'est une surface de forêt équivalente à un terrain de football qui disparaît toutes les 7 secondes en Amazonie ? La prochaine émission vous dira tout sur le blob, cet étrange génie visqueux qui n'est ni un animal, ni une plante, ni un champignon.